France Bleu, dans le rétro l'intégrale, Déborah Grunewald.
Salut à tous dans le rétro, bienvenue pour ce nouvel épisode. Chaque semaine, on remonte le fil d'une carrière avec un invité. Au rythme de ce voyage, on découvre un parcours, on discute, on aime, on gueule, on s'indigne, on partage, on rejoue le film d'une vie. Aujourd'hui, c'est une actrice iconique qui est avec nous. Elle est la glace et le feu, elle emmerde la bien-pensance avec une audace déconcertante et une grâce insolente, irrévérencieuse et mystérieuse. Elle est douce et dingue. Mon invité aujourd'hui, c'est Fanny Ardant. Passé, présent, futur, c'est parti, je vous embarque pour un voyage dans le temps. Bonjour Fanny Ardant.
Bonjour.
Si vous êtes comme votre personnage Rachel dans Les Rois de la Piste, vous n'aimez pas les compliments, c'est ce qui est dit au début du film.
Ouais.
Vous les aimez les compliments ou pas?
Non.
Pourquoi?
Il y a une sorte d'embarras, on ne se voit jamais dans le regard des autres, donc tout d'un coup, les compliments, c'est comme si c'était un effet de miroir, mais qui...
J'aurais pu faire une liste de défauts. Vous pouvez me la faire si vous voulez.
Non, parce que je ne suis pas en confessionnal, mais oui, un compliment, mais peut-être aussi quelquefois quand on vous sourit ou qu'on vous serre la main, tout est dit. Oui.
Vous ressentez les gens, les choses à travers un regard, un geste.
Oui, surtout les gens dans la rue. On ne se connaît pas, on ne connaît pas nos prénoms, on ne connaît pas nos noms, on ne sait pas qui est qui. Un sourire, ça vaut toutes les phrases.
Sauf que vous, on vous connaît. Donc c'est biaisé dès le départ quand même.
Peut-être, mais ils connaissent moi à travers des personnages du cinéma ou du théâtre. C'est comme un raccourci tout d'un coup. Je sais qu'ils parlent du personnage. Ils ne savent pas tout de moi.
Les Rois de la Piste, c'est une comédie de Thierry Cliffa avec vous, Fanny Ardant, avec Mathieu Kassovitz, Nicolas Duvauchel, Laetitia Doche et Ben Attal. Les Rois de la Piste, c'est une famille d'arnaqueurs, braqueurs et bracassés. Deux détectives sont à vos trousses pour mettre la main sur un tableau célèbre que vos fils et votre petit-fils ont volé avec votre complicité. Déjà, en disant ça, on se rend compte que c'est loin d'être une famille ordinaire.
Ah non. En même temps, vous dites, moi je suis le cerveau de cette famille. Et en fait, les bracassés, ce sont mes fils. Parce que dans ce coup génial que j'avais fomenté, le fait qu'ils se soient arrêtés sur un tableau, c'est ça qui a tout fait péricliter.
C'est leur connerie, en fait.
Oui. Donc, cette mère, elle aura appris à être libre, à vivre sous les radars. Ce que j'aime aussi dans cette Rachel Zimmerman et ses enfants, c'est plus l'amour du coup que l'avidité.
Il y a beaucoup d'amour dans ce film, mais il y a un de vos fils, quand même, qui dit tout simplement « mais t'es une saloperie, en fait ».
Oui. Ouais, ouais.
Alors Rachel saloperie ou mère aimante mais qui aime peut-être d'une façon différente?
Oui, alors qu'est-ce qu'on entend par le terme saloperie? Moi je pense que il vaut mieux aimer trop et étouffer que ne pas aimer assez et d'être froide. Alors je sais, je suis envahissante et puis tous les outsiders qui arrivent, la fiancée potentielle, tout ça, il faut passer l'examen.
Mais ça arrive dans la vie parce qu'effectivement, dans ce film, il y a à un moment donné une jeune fille, Céleste, qui débarque en fait dans la vie d'un de vos fils. C'est la pièce rapportée. Et dans les familles, c'est pareil.
Ah oui, mais c'est vrai. Je ne sais pas quand un frère...
Ça peut foutre la merde.
Oui, ou quand un frère ramène une fiancée, ben les sœurs, forcément, la passent au crible. La mère, je ne vous dis même pas, oui.
Alors, il y a le clan, la famille Zimmerman, et il y a donc cette pièce rapportée. C'est une famille pas ordinaire qui nous fait réfléchir sur comment trouver aussi sa place au sein de cette famille. La famille, elle peut être encombrante, parfois.
Non, moi j'adore la famille. La famille, c'est comme une sorte de premier petit monde dans lequel tu vas grandir. Il faut que tu luttes, il faut que tu t'opposes. J'aime bien la dialectique, les discussions, les engueulades. Mais je pense que tout ce qu'on apprend dans la famille va vous servir. Ou tout va être nourriture. Un peu comme une petite arbre ou une petite salade qu'on a abrité des besoins pour qu'elle grandisse encore mieux.
Ça peut vous bouffer aussi.
Mais tout est danger dans la vie.
Ça, vous aimez ça?
Oui. Et je pense aussi que la famille, c'est le seul endroit où on peut être vraiment libre, où rien ne sera retenu contre vous. Et je pense que cette famille Zimmerman, elle est précieuse, puisque la société va vous apprendre à marcher dans le rang, la tête penchée, bien à droite, pas d'éclat. Dès que les enfants vont à l'école, on va leur apprendre aussi à marcher droit. Donc si tout d'un coup, vous avez la chance, dans votre propre famille, d'être un peu rock'n'roll, c'est un cadeau.
Dans ce film, Fanny Ardant, effectivement, il y a question de liberté. Rachel est une femme libre, comme vous, dans la vie. Est-ce que vous vous sentez plus libre aujourd'hui qu'il y a 20 ans, par exemple?
Non. C'est-à-dire que je pense que le monde était plus libre il y a 20 ans. Alors peut-être que ça m'a donné des muscles pour arriver dans notre société actuelle où les libertés s'en vont de plus en plus. Pas qu'en France, dans le monde entier, il y a quelque chose qui s'est refermé.
Ça vous gonfle?
Je pense que le bien le plus précieux, et qu'on s'en aperçoit trop tard, c'est la liberté, une fois qu'on l'a perdue. J'ai toujours été opposée à des choix politiques où ça serait la sécurité contre la liberté. Parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus précieux. Et une fois qu'elle est perdue, elle est perdue.
Donc dans le film, il est question de liberté. Il y a le tableau aussi volé dans Les Rois de la Piste. C'est la musicienne de Tamara de Lempicka, une femme libre justement et une peintre libertaire qui a dit « Une artiste doit tout expérimenter mais ne doit jamais tout révéler ». Qu'est-ce que vous aimeriez expérimenter si vous aviez là une baguette magique que vous n'avez jamais expérimentée dans le cinéma? J'ai l'impression que vous avez tout fait, non?
Ah non, on n'a jamais tout fait, parce que vous voyez le côté complexe des personnages, la complexité d'histoire. Moi, je dis toujours, au fond, depuis Homère ou Eschyle, tout a été raconté. Puis après, c'est avec les détails, les nuances, les sfumatures. Donc, moi, je pense que je ne jouerai plus au cinéma ou au théâtre quand il n'y aura plus rien qui m'intéressera.
Ce n'est pas possible, je pense. Il y aura toujours quelque chose qui va vous intéresser, ouais, non?
Oui, absolument. C'est difficile avant de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et puis, quand Thierry Clifford m'a proposé ce scénario, tout de suite, j'ai eu envie de rentrer dans cette histoire et de jouer ce personnage.
Mais cette femme, elle est douce, elle est rock'n'roll. En fait, je trouve qu'elle vous ressemble.
Ah bon? Ouais. Moi, je l'aime beaucoup.
Hors des clous.
Oui, j'aime l'idée qu'elle vive dans un camping-car. C'est pour ça que je vous parlais dès le départ. On peut faire des casses pour survivre, mais pas par avidité. C'est pas intéressant de voler pour être de plus en plus riche. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas avoir de carte bleue, qu'on ne soit pas repérable.
Être libre, oui. Tout simplement. Fanny Ardant, vous devez être habituée aux compliments, évidemment. Ça va vous paraître un peu con-con, mais je vous ai trouvée belle dans ce film. Belle et rock'n'roll, justement.
Ça alors.
La beauté d'une femme, elle passe par quoi?
Bien sûr que c'est un cliché, mais je pense que on disait toujours à 40 ans, une femme est responsable de son visage. C'est-à-dire que en 40 ans, on a vécu, on a choisi. Moi, je ne peux vous parler que moi, quand je trouve quelqu'un de beau, c'est tout ce qui émane d'elle. C'est pas les traits. C'est comme quand vous regardez un arbre.
C'est pas physique, c'est plus l'énergie qui
va
s'en dégager.
Oui, tu vois, la chaleur, la violence, l'intelligence, le côté, le défi. Tout ça fait que vous êtes devant une personne et vous dites, elle est belle, cette personne. Et que ce n'est pas avec des canons précis.
En ce moment, à découvrir le nouveau film de Thierry Cliffa, l'histoire d'une famille qui a eu des hauts et des bas, qui a fait beaucoup de conneries, qui s'est bien engueulée, mais qui finit en beauté comme Les Rois de la Piste. Les Rois de la Piste, c'est le nom du film, c'est drôle et mélancolique, joyeux, pétillant et romanesque. Il y a de l'amour, du suspense et c'est en ce moment au cinéma avec Fanny Ardant, notre invitée aujourd'hui sur France Bleu.
France Bleu remonte le temps, c'est dans le rétro.
Allez, c'est parti, on démarre notre voyage dans le temps. Vous naissez à Saumur, votre père Jean est officier de cavalerie, un homme d'une grande douceur, indépendant, qui a le sens de l'humour. Votre maman Jacqueline, vous en parlez moins, pourtant j'imagine qu'elle a laissé une empreinte aussi dans ce que vous êtes aujourd'hui.
Bien sûr, une femme intelligente, rapide, très protectrice.
Trop.
Bon, oui, c'est le début de notre conversation, c'était comme un jeu du chat et de la souris. Ma mère savait que je mentais, donc elle me posait des questions, comme vous savez, un juge d'instruction. Mais finalement, moi, elle m'avait rendue encore plus habile, parce que je savais qu'elle attendrait 2 ou 3 jours pour me coincer. Il y avait quelque chose où elle était très présente, et qu'elle nous aimait passionnément, et qu'elle avait, peut-être comme Rachel, qu'il fallait être solide en face d'elle.
Vos parents s'aiment profondément. Quand on est enfant, qu'est-ce qui nous fait dire que nos parents sont fous l'un de l'autre?
Je crois que un enfant, il détecte l'hypocrisie ou les faux gestes pour « il ne faut pas parler devant les enfants ». Tandis que tout ce qui échappe aux parents, un regard, un geste, une parole, qu'ils ne disaient pas pour nous, mais qu'ils se disaient entre eux. Pour moi, c'était éblouissant, parce que très jeune, j'ai lu les livres, je me suis passionnée tout de suite pour l'amour. Je trouvais que c'était la seule richesse des gens, quand ils étaient amoureux. Dès qu'ils étaient amoureux, il y avait quelque chose qui les rendait flamboyants.
Quand on n'est plus amoureux, on perd cette flamboyance?
Alors ça dépend. Il y a cette phrase de Marguerite Duras que j'aime beaucoup qui dit « Attendre l'amour, c'est déjà de l'amour ». Ça dépend de la place que vous donnez à l'amour dans votre vie. Moi je dis toujours « L'art prend la place que l'amour laisse libre ». Et donc, un homme et une femme qui s'aiment ou deux êtres qui s'aiment, ils s'en fichent de la société. Ils s'en fichent de l'argent. Ils s'en fichent de la réussite. Et c'est que dès que tout d'un coup il y a des bancs libres, alors là, autre chose vient s'asseoir.
Fanny Ardant, vous avez des parents stricts. Vous aviez l'habitude de dire « toute autorité doit être discutable, toute vérité doit être vérifiée ». Même quand on est enfant, même quand on est adolescent? Ou ça vient plus tard?
Non, parce que justement, curieusement, c'est pendant mon enfance que j'entendais mon père, quand on disait « la maîtresse a dit ça », elle disait « eh ben, elle était stupide ». Donc, et maman poussait des cris parce qu'ils avaient peur qu'on ne considère plus la maîtresse. Tandis que moi, très vite, je me suis dit « ah, c'est important ». Bien sûr que si je commence à dire à la maîtresse qu'elle est stupide, je serais collée. Tant pis pour moi. Tandis que là, je voyais qu'une voix adulte pouvait discuter quelque chose qu'on vous livrait comme une vérité essentielle.
C'est rare parce que cette génération avait plutôt tendance à se poser du côté de
l'école.
Du maître et de l'école. C'est-à-dire qu'une maîtresse qui faisait quelque chose, elle avait forcément raison.
Non.
On ne mettait pas en question ça.
Alors que mon père le remettait en question. Ou on remettait en question quand il y avait quelqu'un qui disait « je l'ai lu dans le journal ». Et il disait « mais pourquoi croire le journal ?» Vous voyez que la voix officielle... Donc, dans cette douceur, et pas donneur de leçons, s'introduisait en moi, toute chose doit être réfléchie, discutée.
À l'ère des fake news aujourd'hui, il faut encore plus remettre en question, finalement, ce qu'on nous transmet.
Oui, les médias ne sont pas forcément porteurs de vérité.
Il faut aller vérifier. Mais on vérifie où, comment aujourd'hui?
Non, réfléchir.
Parce qu'il y a tellement de...
Non, non, réfléchir. Moi, je dis toujours à qui profite le crime? Pourquoi tant d'informations sur un tel ou un tel? Peut-être que c'est une envie de mettre au courant, mais bon, moi, c'est ça quand on me dit, alors votre époque, elle... Non, je dis, moi, elle me passionne, mon époque, parce que tout le monde est responsable de soi-même. De ne pas attendre d'un maître, d'une institution de la République qui vous dise la vérité, non.
Une enfance heureuse, Fanny Ardant, peu de souvenirs avant 15 ans. Quand on vous demande si vous avez gardé un mauvais souvenir de cette période, vous répondez « c'était moi le mauvais souvenir, je ne m'aimais pas, j'avais du mal à vivre ».
Oui, oui, j'avais une vision très noire de la vie.
C'est pas l'adolescence, finalement?
Peut-être, mais par exemple, je n'ai pas aimé l'école, je n'aimais pas, j'avais pas d'amis, donc il y avait quelque chose de sombre. Et il y avait ce petit enclos de ma famille que j'aimais. C'est pour ça que moi, je crois que tout commence à 15 ans. Avant, c'est une sorte de magma sombre dans lequel vous survivez, mais sans lumière. Moi, je crois que tout est arrivé avec la lecture. Tout d'un coup, il y avait d'autres mondes, il y avait d'autres façons de voir. Tout m'a passionnée à ce moment-là.
Fanny Ardant, vous grandissez à Monaco dans une maison de la rue Colonel Belando de Castro avec un petit jardin qui donne sur la mer. Vous passez une partie de votre enfance à voyager, téléportation. Nous sommes maintenant en pension, la même que Caroline de Monaco. Vous y avez passé une partie de votre adolescence. Établissement religieux, je crois que vous avez toujours été croyante. Vous aimez les textes bibliques pour leurs histoires, mais pas pour ses leçons de morale.
J'aime le monde spirituel, j'aime qu'on me propose un autre monde que celui clos. Après, j'ai beaucoup de mal avec, comme j'ai du mal avec les institutions de la République, j'ai du mal avec ce qu'on appelle les églises, dans les trois religions d'ailleurs.
Le dogme?
Oui. Alors que la pensée religieuse ou spirituelle agrandit quelque chose de votre vision du monde.
La foi, en fait.
Oui, ou même sans la foi, qu'on vous parle un autre langage, qui est comment réussir, comment devenir riche. Pour moi, j'ai toujours pensé que le pouvoir, donc si tu obtiens un pouvoir à travers une religion, le pouvoir corrompt pour moi. Le pouvoir fait qu'on dévie d'une parole.
Dans l'Ancien Testament, il y a les 10 commandements.
Oui.
On aurait pu en rajouter un 11e. Tu ne mordras point. En pension, vous y avez mordu une fille. Il ne faut pas vous emmerder, visiblement. Je ne mens pas.
Non, vous ne mentez pas.
Qu'est-ce qui vous a pris?
Il ne faut pas avoir peur de la sanction. Toi, ou d'avoir peur de déplaire parce qu'on pourrait être ostracisé.
Vous vous en foutez, ça?
De
déplaire?
Oui.
C'est un métier, normalement, qu'on fait le cinéma pour plaire aux autres. On dépend du désir des autres. Vous, vous en foutez. Mais vraiment, surtout.
Non, je voudrais qu'on m'aime, mais je ne veux pas plaire. Parce que qui dit plaire, dit recommencer à être différente, à sourire là où il faut sourire, pleurer là où il faut pleurer. Donc ça m'est égal.
Ça vous a porté préjudice?
Non, moi j'ai vécu ma vie comme je pensais.
Plus jeune, Fanny Ardant, vous avez peu d'amis. Vous ne voulez pas être la proie d'un groupe, d'un système de pensée. C'est une vision super surprenante de l'amitié, ça?
Oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parlait de l'amitié, moi je l'opposais toujours à l'amour. L'amitié, il y avait quelque chose qui étouffait. Ah, si tu parles à l'un, tu ne seras plus mon ami. Parce que dans l'amour, il y avait une telle passion, hein, quelque chose qui vous dévorait. C'est vrai que vous n'aviez plus de comptes à rendre. J'avais l'impression que dans l'amitié, il y a toujours des comptes à rendre.
Dans l'amour aussi, il y a des comptes à rendre, non ?
Ben non, parce que vous êtes emporté à la merci d'un courant violent.
Donc il faut être toujours passionné en amour.
Le plus possible.
Mais la passion, parfois, elle s'atténue avec le temps. Alors on fait comment ?
Eh bien moi, c'est pour ça que quand je vois un homme et une femme qui se sont aimés toute leur vie, vraiment, je pense que c'est comme un des beaux-arts, un des chefs-d'œuvre, que c'est encore plus beau que Notre-Dame. Il y a quelque chose qui est magique, parce que, comme vous venez de le dire, c'est difficile.
C'est rare.
Oui, mais donc ceux qui ont vaincu cette soi-disant « mais non, ça va disparaître », ils ont été plus forts que ça.
Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald.
Vous faites vos études à Sciences Po à Aix-en-Provence, vous partez ensuite à Paris, vous faites des petits boulots pour vous payer des cours de théâtre parce que depuis longtemps, vous vous dites « un jour, je serai de l'autre côté du rideau rouge ». Téléportation, on part en 1979. Nous sommes au mois de décembre. Le réalisateur François Truffaut est dans son salon. Il regarde un feuilleton à la télé et vous découvre dans Les Dames de la Côte. Il tombe sous votre charme. François Truffaut vous a réconcilié avec la douceur. Il vous a appris qu'on pouvait avoir des fêlures et des excès. Vous pensiez à quoi, si je peux me permettre ?
Mais je ne sais pas quoi répondre à ça.
Il vous a appris la douceur ?
Non, parce que la douceur, je la connaissais déjà, mais j'ai pas très envie de parler de ça.
Alors Truffaut vous offre votre premier grand rôle,
oui,
dans La femme d'à côté, on est,
oui,
en 1981.
Pour être aimé, il faut être aimable. Et moi, je suis bonne à rien. Bonne à rien. Il y a quelque chose en moi qui éloigne les gens.
Votre mari n'a pas l'air de s'éloigner de vous.
Mon mari m'aime. Mon mari est comme vous. Il fait très bien semblant d'écouter.
Dans ce film, on peut mourir d'amour et s'évanouir devant quelqu'un qui vous broie le cœur. L'amour, c'est la chose la plus importante dans la vie.
Oui. Après, on peut avoir échoué et que c'est comme ça qu'on a du temps libre pour autre chose.
Vous avez longtemps pensé qu'on réussissait ou qu'on ratait sa vie en fonction de ce qui nous arrivait en amour.
Et alors après, bon, j'ai dit beaucoup de bêtises, mais j'ai dit aussi que c'est pour ça que je disais, il n'y a pas de vie ratée, il n'y a pas de vie réussie. On a vécu, justement, à la merci des choses comme si c'était que des tissus qui se déchiraient, qui ont recousé d'un côté, qui craquaient de l'autre. En fait, c'est d'avoir vécu qui est important. C'est de ne pas être resté sur le bord de la vie.
Et d'avoir morflé aussi parfois.
Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, est-ce que vous pensez que Napoléon a réussi sa vie juste parce qu'il a passé les siècles ? Non, on s'en fiche de ça. Je trouve qu'on a vécu. Il n'y a pas de vie réussie et il n'y a pas de vie ratée.
Dans le film Les Rois de la Pisse au ciné... Les Rois de la Pisse... On ne vous l'avait jamais faite. Je vais reprendre donc. Dans le film Les Rois de la Pisse au cinéma en ce moment, il y a cette réplique. Quand votre fils vous dit qu'il veut se marier, vous répondez « Les sentiments, tout le monde en a. Ça ne suffit pas pour le mariage. » C'est ce que vous pourriez vous dire ?
Oui. Je ne connais rien au mariage. Mais puisqu'on fait un serment, il y a quelque chose comme un pari. Vous savez, je crois que c'est le maire qui dit ça dans la joie et dans la douleur. Hein ? Un,
ouais,
petit truc comme ça.
Pour le meilleur et pour le pire.
Oui. Donc il y a quelque chose, c'est comme une sorte de samouraï qui dit « je vais me battre ». Ça ne suffit pas de me dire « aïe, 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 aïe ».
Je voulais parler de François Truffaut. Si ça vous ennuie, on n'en parle pas. Mais je voulais qu'on parle de la mort parce qu'il est en interview sur France Inter. Est-ce que vous voulez qu'on l'écoute ou pas ? On ne parle pas de lui, mais on parle de la mort, de l'invisible et du visible. Ouais.
Il me semble qu'il y aurait une certaine santé à pouvoir haïr un mort, par exemple. Parce que ça veut dire, si on est capable de haïr un mort, ça veut dire qu'on est capable d'en aimer un autre passionnément, et un autre modérément, un autre pour lequel on aurait, par exemple, que de la tendresse, et un autre pour lequel on aurait que de la curiosité. Et c'est quelqu'un qui a, avec les morts, des relations aussi variées et aussi mouvementées qu'on peut avoir avec les gens en vie.
C'est super intéressant ce qu'il dit.
Oui, très. Et moi aussi, je pense toujours ça, que les vivants et les morts, ils sont sur la même ligne. Ils comptent autant. Ils sont aussi forts, c'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils sont moins forts. Moi, je pense jamais que j'ai haï. Moi, la violence que j'ai contre quelqu'un, je la fais disparaître.
Comment ?
Eh bien, par en disant, ça va m'alourdir, ça va me salir. Donc, je préfère dire, voilà.
Vous coupez net ?
Oui, et je dis adieu. Je veux pas rester dans la haine.
Alors, on se dit, je passe à autre chose, c'est tout, et je ferme le rideau?
Non, parce que souvent on m'a demandé, avez-vous des regrets plus que des remords? Non, j'ai plus de remords que de regrets. Parce que quand même, grosso modo, on voit là où on a fait mal, là où on s'est mal comporté. Par rapport à des choses violentes qui me sont arrivées, je n'ai pas de haine.
Je voudrais qu'on revienne sur la mort. Peu de gens disent, il est mort.
Oui.
On préfère dire, il nous a quittés, comme s'il ne fallait pas prononcer le mot.
Oui, il nous a quittés, c'est-à-dire il est allé acheter des cigarettes et il va revenir. On a éradiqué ce mot, parce qu'on est dans une société où on nous dit comment déménager sans douleur, comment divorcer sans douleur, tout doit être fait sans douleur. Et au fond, comme à moins d'être un abruti, tout le monde sait qu'il va mourir. Et la mort, sa propre mort, c'est peut-être le moins grave, c'est la mort de ce qu'on aime qui vous met. Et ouais, c'est vrai, il nous a quittés. Mais ça, c'est les journalistes qui disent ça souvent. Mmh. Est-ce que dans l'école, on vous dit de ne pas parler de la mort?
Mais c'est pareil, dans les médias, on dit plus souvent « senior » maintenant. Il y a des
que
mots
vieux.
Comme ça, sur
oui.
la vieillesse, il y a
ou...
des mots, ou sur les gros, on va dire « obèse », on va dire... C'est vrai qu'on fait très attention aux termes qu'on emploie aujourd'hui. Il faut être beaucoup plus nuancé, pour le coup.
Oui, parce que par exemple, pourquoi on ne dit plus « maison de retraite » Donc on dit un initial, on doit demander « mais c'est quoi ce truc ?»
L'EHPAD.
Oui. Comme une société qui annihilerait tous des sentiments, parce que justement de chagrin, de désespoir, mais plus vous avez ça, plus vous êtes vivant.
Vous avez l'impression qu'on efface tout ce qui peut nous ramener à quelque chose de sombre, de douloureux, de difficile?
Oui, parce que c'est plus facile de gouverner quand tout le monde est là dans une sorte d'endormissement. Alors que moi je trouve que dès qu'on suscite des sentiments, vous venez vérifier si vous êtes toujours vivant.
France Bleue, dans le rétro.
Fanny Ardant, vous tournez avec François Truffaut, avec Alain René, Nadine Trintignant. En 1986, on vous découvre dans un registre plus léger, Conseil de famille de Costa Gavras. Vous faites carrière en France, en Italie, aux États-Unis. Vous tournez avec Sidney Pollack. On se souvient aussi de vous dans Pédale douce en 1996.
Je déteste la chasse. Je suis pour la chirurgie esthétique. J'ai milité pour l'avortement. Le fanatisme me rend folle. J'adore Picasso. J'ai du mal avec les appartements, rien n'a changé depuis 100 ans à part l'électricité. Et je préfère dîner avec des travestis qu'avec des cafards. Bravo. Une minute de plus, c'est moi qui allais vous en mettre une.
Vous êtes aussi cash qu'Eva, votre personnage dans le film. Pourtant, dans la vie, vous aimez mentir. Est-ce que le mensonge, il est vital?
Oui, c'est des chemins de traverse. Et puis, je pense que c'est l'intuition de l'autre qui doit savoir si vous mentez.
Est-ce que vous avez...
Même le flic, il doit savoir si vous mentez. On ne va pas tout manger, dire tout à tout le monde.
Est-ce que vous avez menti pendant cette émission, là, pour l'instant? J'ai pas vu, hein.
Je m'en souviens pas.
Là, vous mentez. Vous obtenez le César de la meilleure actrice, donc, pour Pédale douce. Vous obtiendrez le César de la meilleure actrice dans un second rôle dans le film La Belle Époque, aussi en 2020. Les Césars, on en a beaucoup parlé cette année avec la prise de parole de Judith Godrèche. Elle y a dénoncé les violences sexuelles, l'emprise de certains réalisateurs sur les actrices.
Depuis quelque temps, je parle, mais je ne vous entends pas. Ou à peine. Où êtes-vous? Que dites-vous? Un chuchotement, un demi-mot. Ça serait déjà ça, dit le petit chaperon rouge. Je sais que ça fait peur, perdre des subventions, perdre des rôles, perdre son travail. Moi aussi j'ai peur.
Judith Godrèche dénonce le silence de ceux qui ont vu et qui savaient. Est-ce que garder le silence, c'est être forcément complice? Karine Viard répond que non, que la plupart n'étaient pas complices, c'est juste qu'on se posait pas de questions, on voyait pas le problème, c'était une autre époque. Elle explique qu'une jeune actrice avec un réalisateur plus âgé, c'était quelqu'un de mature, qu'on imaginait mature, admirative.
Non, mais moi je suis profondément égoïste. Donc quand j'étais lancée dans un film sur un plateau, je ne voyais rien. Donc je peux pas me dire j'aurais dû, j'aurais pu, j'étais ailleurs. La peur, elle est partagée des deux côtés maintenant. Il y a la peur de celui qui aura dit la phrase qu'il fallait pas et qui sera tout d'un coup ostracisé. Donc, peut-être qu'il faut reconnaître que notre société est de plus en plus régie par la peur et que la peur, c'est la fin de la démocratie.
Est-ce que la justice a quelque chose à voir là-dedans?
Moi, je voudrais toujours croire à la justice. Elle est lente.
Alors que la communication et les médias sont beaucoup plus rapides.
Oui.
Et les réseaux sociaux.
Oui, mais prendre la place de la justice, aujourd'hui, on peut encore dire... La parole est libre, mais imaginez une société qui change, où il n'y aurait plus de justice, et où il n'y aurait que la voix publique qui ait raison, et là on le regretterait. Il y a eu des époques comme ça.
C'est pas le cas un peu aujourd'hui ? On déjà, tend pas vers ça aujourd'hui ?
Bah parce que justement, il y a les gens ont peur d'être pris dans le dans les réseaux, d'être démolis. Donc par peur, on se tait ou on ne défend plus. Et donc ça ne changera pas. On deviendra des gens qui se sont agenouillés par peur. Là, j'entendais la phrase dans ce discours, la peur, je pense que c'est toujours le plus grand ennemi de la liberté. Et que dans une démocratie, tout le monde doit pouvoir parler.
Cette peur, elle a un impact sur la relation entre les hommes et les femmes aujourd'hui ?
Moi, je ne sais pas, parce que je ne raisonne jamais en termes de généralité. Quand même, je continue à croire que chacun est différent, ouais. Qu'on ne peut pas dire. Moi, je n'ai jamais parlé en termes d'hommes et de femmes. J'ai parlé en termes d'individus. Je trouve toujours que c'est restrictif de limiter quelqu'un à son sexe, à sa nationalité, à son travail.
Maintenant, on les limite aussi à leur pouvoir.
Oui. Et comme je vous ai dit, quand on parlait de la foi, tout ce qui veut le pouvoir se corrompt et tout ce qui a le pouvoir est corrompu.
Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question sur Gérard Depardieu ? Si vous ne voulez pas répondre, on ne répond pas, il n'y a pas de problème. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il est fini ? Est-ce qu'il va se relever ?
Se relever, ça dépend de la société.
Vous avez de ses nouvelles encore ?
Oui, et je pense que... Vous savez, quand on attaque un de vos amis, on a envie de le défendre. Comme si, d'un seul coup, vous étiez la mère, la sœur, l'ami, la femme. C'est au moment où quelqu'un est attaqué qu'il faut le protéger. Donc, je sais qu'on me l'a reproché de défendre Gérard. Mais jamais je trahirai un ami. Jamais.
Comme envers et contre tous.
Et puis, vous me parlez des rois de la piste. Tout le monde couvre tout le monde. Parce que vivre est un danger. Donc si déjà vous trahissez vos propres familles, ou si vous trahissez vos propres amis, un jour, quelqu'un vous trahira, qui viendra vous aider ? Mais en même temps, c'est comme si j'allais vous poser une question à vous, parce que je reste sur la question que vous m'avez posée. Et je me suis toujours posé la question si dans les journaux ou à la radio, c'était vous, la journaliste, ou si c'était les instances au-dessus qui vous demandaient de poser la question. C'est pour ça aussi je me dis, mais alors la presse, elle n'est plus libre s'il y a un monsieur du haut de son balcon qui dit, hé, tu dois lui poser cette question. Donc tout d'un coup, je me dis, mais alors les dés sont pipés. Est-ce que vous, Déborah, qui me demandez, est-ce que cette question vous intéresse vraiment ou c'est un diktat de la direction ?
Alors, comme vous êtes quelqu'un de sensible et qui ressent les choses, vous avez dû le sentir si c'était sincère ou si c'était dicté ?
Oui, parce que vous m'avez dit, si vous n'avez pas envie, vous pouvez vous taire. Donc c'est déjà un bon point. Mais tout d'un coup, on sent que cette société où les médias sont à vendre, il faut absolument avoir fait la phrase de trop pour pouvoir mettre au pilori. Et du coup, l'émission est beaucoup écoutée, les journaux sont beaucoup lus. Donc il y a quelque chose d'abject là-dedans.
La course au buzz.
Voilà.
Il faut buzzer absolument,
oui.
Faire parler d'une émission.
Moi, je pense au journaliste qui peut-être va être rétrogradé ou qui ne fera pas son chiffre de truc. Donc je dis, alors on se moque de qui là-dedans ?
C'est-à-dire qu'il y a de la suspicion vis-à-vis des médias de votre part ? Vous n'avez plus confiance ?
Non, c'est pas que j'ai pas confiance, parce qu'au fond, je me dis, allez, c'est comme rentrer dans une forêt dans laquelle je vais tomber sur une bûche ou sur une chausse-trappe. C'est pas complètement idiote, c'est un jeu. Je sais très bien là où je flirte. Mais je sais aussi que le monde des médias est un business aussi. Donc, ça sera plus le journaliste vraiment intéressé pour avoir une question, pour avoir un propos qui lui-même se mouillera. On reste dans l'accusé et l'accusateur.
Est-ce que vous pensez que ces questions-là, je vous les ai posées pour buzzer, justement ?
Non.
Est-ce que ce n'est pas finalement parler de la vie, parler de ce qui nous rassemble, ce qui nous divise ?
Peut-être.
C'est-à-dire, c'est une discussion, ce sont des questions qu'on se pose tous, on a tous un avis sur toutes ces affaires-là, dans le cinéma notamment, mais sur d'autres affaires aussi. Et c'est aussi intéressant de pouvoir encore débattre, finalement, et
oui.
De dire ce qu'on pense,
oui.
Tout simplement.
Mais il y aura toujours, en suspicion, dans tout journaliste, il y a quelqu'un qui a été peut-être, j'ai dit, manipulé par une direction qui cherche autre chose que la vérité.
Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald.
Allez, on continue notre balade au fil du temps, c'est reparti. Nous sommes au théâtre de l'Atelier à Paris, on va ouvrir cette porte.
Vous pensez que je suis folle ? Si je suis saine d'esprit, ce qui m'est arrivé pourrait vous arriver aussi. Vous ne voulez pas entendre ce que j'ai à vous dire.
Vous êtes sur scène pour la pièce « L'année de la pensée magique ». La pensée magique, c'est par exemple cette superstition qui consiste à se dire « Si je compte jusqu'à 10 dans ma tête et qu'il n'est pas revenu, c'est qu'il ne m'aime plus. Ou si le feu passe au rouge dans moins de 5 secondes, c'est que je vais rater mon examen. » Est-ce que vous le faites ça dans la vie ?
Non, pas tellement.
Freud disait qu'il faut savoir se libérer des pensées magiques pour passer à l'action. De ces superstitions, finalement.
Alors si vous parlez de superstitions, moi je passe pas sous une échelle. Quand je rencontre un chat noir, je lui dis bonjour, monsieur le chat. Comme une sorte de, allez, d'arrangement avec la vie, mais sans y croire vraiment. Comme si, vous voyez, il y avait une sorte de pacte.
Fanny Ardant, on continue notre voyage dans les années 2010-2020. On vous retrouve à l'affiche d'une trentaine de films. 2023, Ma France à moi de Benoît Cohen. Aujourd'hui, Les Rois de la piste de Thierry Cliffa.
T'es jalouse parce que t'as pas d'autre plan. T'as rien d'autre.
J'ai pas de plan, mais j'ai 1000 plans à la minute. Qu'est-ce que tu crois?
Mais c'est quoi là? C'est Matt Dalton et son fils Joe?
Les Rois de la piste, une comédie féroce, inattendue, joyeuse et tournée vers la vie. Ce sont de grandes engueulades et de grandes réconciliations. Certains s'engueulent, certains évitent le conflit. Est-ce que s'engueuler, c'est constructif?
Oui.
Je me doutais que vous alliez me répondre ça.
Parce que vous avez vu, parce que moi je suis quelqu'un qui aime la dialectique. Et vous avez vu que dans la discussion même violente, il faut que vous entendiez tout ce que vous dit l'adversaire pour pouvoir rebondir et donc architecturer vos réflexions et votre façon de convaincre. Donc si vous vous engueulez pas, ou que c'est tout est mou, ou si que dès quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, ne vous parle plus, la pensée s'appauvrit, parce qu'elle ne cherche plus ni à convaincre. Moi j'aime beaucoup la polémique, j'aime que les gens ne pensent pas de la même façon. J'aime l'idée d'avoir convaincu, ou d'avoir perdu.
C'est ce que j'allais vous dire, est-ce que vous aimez l'idée aussi parfois d'avoir tort?
Non. Non, je dis pas j'ai tort, je dis j'ai perdu. Ce qui est différent.
C'est comme un combat, en fait.
Oui. Souvent, on me dit, mais comment tu dois tomber de fatigue le soir? Je dis oui, comme les arbres qui s'abattent.
Fanny Ardant, cette émission, on la termine toujours avec un extrait musical. Maria Callas, qui vous a fait entendre tout ce que vous ne pouviez pas expliquer. Dans Masterclass et dans Callas Forever, vous vous êtes glissée dans la peau de la Divina, comme on l'appelait. Fanny Ardant, on boucle notre voyage avec les mots de Flaubert. Le devoir, c'est de sentir ce qui est grand, de chérir ce qui est beau, et non d'accepter toutes les conventions de la société avec les ignominies qu'elle nous impose.
Waouh !
Ça vous va ?
C'est magnifique.
Merci Fanny Ardant.
Merci.
Les Rois de la piste, c'est en ce moment au cinéma avec donc Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz, Nicolas Duvauchel, Laetitia Doche et Ben Attal. Il y a de l'amour, il y a du suspense, c'est parler de la famille dans ce qu'elle a de plus réjouissant et de plus toxique. C'est exister au sein de la société et au sein de sa famille. C'est une comédie mais avec une intrigue de film policier. Allez-y, je voulais rapidement remercier Thomas aussi et l'équipe de l'agence BCG. Merci de nous avoir fait confiance et Kéra qui gère la programmation de l'émission qui a dû être bien relou. Mais au moins, on a eu le plaisir de vous recevoir, Fanny Ardant. Passe un super bon week-end. Merci, Fanny.
Merci.
Merci, passe un bon week-end à l'écoute de France Bleu. Salut.